Vous écoutez
RMC. RMC, en route pour Paris 2024.
Et avec Sophie Camoun, évidemment, qui fait les... Alors, ce week-end, elle est là samedi, elle est là dimanche. Elle avait un trou dans son emploi du temps et elle a accepté de venir.
Figure-toi que non, ce n'est pas vrai. J'accepte de venir le samedi et le dimanche parce qu'il y a une grande compétition de natation ce week-end et que je me dis que peut-être enfin on va parler de natation sur RMC.
Mais
donc
nous
je suis là.
En parlons régulièrement dans cette émission, tu le sais bien, Sophie.
Évidemment. Il est l'heure de replonger, ça fait du bien.
Oui, alors on va en parler tout à l'heure. On sera avec Julien. Un tout petit mot. Donc meeting de Saint-Germain-en-Laye, c'est un nouveau meeting qui a été mis en place
C'est un meeting intéressant pour la natation française parce que les qualifs olympiques ont lieu au mois de juin. Donc entre décembre, dernière compétition importante sur lesquelles les nageurs ont été préparés, et le mois de juin, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de meetings, il n'y a pas beaucoup de confrontations. Donc c'est le moment justement de pouvoir se tester un petit peu au mois de mars, en plein hiver, en plein entraînement dur, d'avoir un petit peu de repères. Donc voilà, ça nous fait plaisir de revoir. Et puis tous les meilleurs nageurs français, sauf Léon, tu l'as dit, vont être là. Donc quand même une très belle confrontation. Et puis pas mal de nageurs étrangers aussi, voilà, sur un meeting qui est un peu de la natation, mais la natation comme on n'a pas l'habitude de la voir, avec justement pas mal d'animations, de shows. Voilà, c'est un peu de l'entertainment aussi.
À l'américaine, quoi.
Exactement. Et ça fait
y est, la natation s'y met.
Ouais,
on va arrêter de compter les petits carreaux au fond de la piscine.
Elle accompagne.
On va faire du show et des paillettes.
Elle accompagne sa progression à travers ce genre de compétition.
Avec les paillettes, toi, dans la piscine.
Regarde, t'as remarqué que je suis maquillée, j'ai mis des paillettes aujourd'hui.
Alors, avant de parler de natation, puisqu'on sera tout à l'heure en direct avec Julien Richard et avec Gilles Sézional, qui est donc président de la Fédération Française de Natation, on va prendre un peu de hauteur, on va aller tout en haut de la perche, là-haut, avec un grand champion, une légende du sport français, lui qui, il y a 28 ans maintenant, a décroché une médaille d'or olympique, c'était à Atlanta, et avait le droit d'écouter la Marseillaise sur le podium, avec cette médaille d'or autour du cou. Ce garçon, c'est évidemment, vous l'avez reconnu, Jean Galfion, qui nous fait l'amitié d'être avec nous quelques minutes alors qu'il est en voiture. Bonjour Jean.
Salut,
oui,
Jean.
Bonjour. Merci. Tu t'es arrêté, j'espère, Jean. Hein, tu t'es mis sur le bord de la route. Hein.
Ah, ben bien sûr.
Voilà. Ouais, très honnable. Hein. 28 ans. Non, mais hier, en faisant le con, j'ai dit 96, c'était il y a 28 ans. C'est un truc de dingue. Alors, Sophie nous parle souvent de ces Jeux Olympiques à elle. C'est 1984. Alors là, c'est encore plus vieux. Mais déjà, 28 balais, ça commence à faire quand même. Hein.
Oui, c'est pas tout neuf, hein. Mais il y avait déjà la couleur, donc les images sont encore réelles. Non, mais bien sûr, ça compte et ça commence à compter, mais c'est sympa, cette année on en reparle de plus en plus, donc je rajeunis.
Et on doit t'en parler souvent en plus encore aujourd'hui.
Oui, c'est ça, c'est une année olympique où les champions, on les ressort des cartons pour voir leur témoignage et donner un peu plus d'éclaircissement sur ce qui se passe. Donc c'est sympa de parler de l'olympisme, des jeux, de ce que j'ai fait il y a 28 ans et puis d'autres choses. Et donc ça, c'est plutôt chouette de parler des bons moments de sa vie.
Ouais. Une médaille d'or olympique, forcément, ça marque une vie, ça marque un homme. C'est l'important, l'événement le plus important de ta vie, en tout cas professionnelle, que tu as connu ce jour-là à Atlanta.
De ma vie d'athlète, oui, probablement. Après, il y a un moment fort aussi dans ma vie d'athlète, c'était à la fameuse barre des 6 mètres.
Bah oui.
On était très peu à la franchie à l'époque. Et là, maintenant, il n'y a pas encore trop de perchites. Hein. Je pense qu'il y en a 24 ou 25. Donc, c'est important. Il y a des moments forts dans ma carrière aussi, que j'aime bien souligner, même si c'est moins médiatique. C'est le fait d'être revenu à très haut niveau avant d'arrêter ma carrière, parce que j'avais connu 2-3 ans de grosses galères et des grosses blessures. Et j'étais très fier d'être revenu parmi les meilleurs au monde pour pouvoir arrêter.
Ouais, et puis il y a eu une autre carrière derrière celle-là. Tu as eu ta carrière de skipper, Jean, pendant plusieurs années. Tu t'es essayé avec plutôt de la réussite au métier de skipper. Tu as fait de grandes courses avant d'arrêter finalement. C'est arrivé un peu tôt. On a été surpris. Pourquoi tu as décidé du jour au lendemain finalement d'arrêter la course au large?
Ben, en fait, j'ai fait 17 ans hein, sur les bateaux.
Donc
Et moi, j'ai une carrière où j'étais assez fier. J'ai eu la chance de pouvoir participer à une Coupe de l'América, à plusieurs routes du Rhum, à Transat Jacques Vabre, à la Route du Chocolat, et bien sûr plein d'autres courses au niveau de l'Atlantique. Et puis, je suis arrivé à un point où j'avais l'impression d'être allé au bout de ce que je pouvais faire. La course au large est un métier très, très difficile, inconfortable. Et aujourd'hui, les bateaux vont de plus en plus vite. Et donc, ça demande des moyens techniques et aussi financiers, mais techniques, et des compétences techniques aussi, peut-être qui ont évolué ou sur lesquelles moi j'arrive du mal à suivre. Et en même temps, c'était une année olympique où je me disais, il y a plein de choses à faire et je voulais me rendre un peu disponible. Mais rien ne dit que je reparte pas en équipage ou sur les bateaux des autres. C'est sympa aussi.
Et t'as réussi à travers la voile, justement, à retrouver les mêmes émotions que ce que t'as vécu en tant que champion olympique de perche?
Il y a des choses que j'ai retrouvées, il y a d'autres choses qui étaient plus fortes et d'autres moins. C'est très difficile de comparer, mais la veille d'une grande régate, oui, on a la boule au ventre comme avant une finale olympique, par exemple. Mais après, il y a un aspect aventure où on face aux éléments et face à un aspect un peu rugueux qui est que demande la course au large qu'on n'a pas quand on est athlète. On est des Formule 1 à se regarder beaucoup. Notre comportement, notre corps, si on a bien dormi, si on a des petits bobos, enfin, s'occuper beaucoup de soi-même et en bateau, sur la course au large, c'est vraiment le bateau avant tout, la performance. Moi, je suis devenu beaucoup plus robuste, beaucoup plus 4x4 et dur au mal. Donc, c'est pas les mêmes repères. Mais il y a d'autres émotions. Je pense que c'est l'émotion plus puissante parce qu'on est fier de ce qu'on fait quand on arrive à faire glisser un bateau, à faire aller vite ou faire tourner un équipage ou arriver à la fin d'une course, c'est des choses différentes.
Bon, tu ne participeras pas aux Jeux de Paris 2024 en tant que skipper sur les bateaux olympiques, Jean, rassure-nous, non, c'est pas prévu, hein.
Ah ouais, non, c'est encore une autre style de voile, un autre type de voile, et là, non, j'ai pas pris cette voie, et puis il faut commencer très jeune, parce que là, c'est vraiment des skippers de talent avec un feeling et des sensations au bout des doigts et du corps que moi j'ai pas eu cette formation.
Il y en a certains de la course au large qui sont passés par la voile olympique avant d'obtenir des bateaux qui traversent l'Atlantique, hein, petit à petit.
Oui, enfin, il y a eu quelques exemples, mais c'est rare quand même. C'est rare, c'est deux univers différents.
Alors, Jean, on t'a entendu exprimer ton mécontentement il y a quelques jours après qu'une commission de la Banque Populaire, qui est propriétaire du bateau du même nom, qui va aller balader la flamme aux Antilles, ait rejeté ton nom, alors que Armel Lecléache, le skipper du bateau, qui a donc son mot à dire et qui est un copain à toi, avait proposé ton nom justement pour faire partie de son équipage. Est-ce que tu as eu le fin mot de l'histoire? Est-ce que tu as su pourquoi ton nom avait été repoussé alors que franchement, tu correspondais parfaitement au truc, champion olympique et en même temps skipper?
J'ai été très déçu, en effet. Je pensais cocher un peu les bonnes cases. Et en même temps, j'étais très flatté que ce soit Armel qui m'appelle et qui me propose. Mais non, Armel avait été très clair. Hein. J'avais été pressenti et j'avais pas encore ma place à titrer. C'est un choix de la Banque Populaire de faire participer à cette fête olympique d'autres, pas que des sportifs, donc je sais pas trop qui y aura sur le bateau. Néanmoins, voilà, c'est leur bateau, c'est leur choix, et puis vous savez, les Jeux, tout le monde a envie d'y participer, il n'y a pas la place pour tout le monde, donc ça fait des déceptions parfois. Moi, c'était mon cas. Maintenant, je suis passé à autre chose, et puis je veux pas non plus montrer du doigt la Banque Populaire. C'est son bateau, ils font ce qu'ils veulent, ils ont fait suffisamment dans le sport et à haut niveau pour ne pas rajouter de la polémique. Je suis déçu, certes, je comprends pas leur choix, certes, mais c'est pas très grave.
Alors justement, du coup, qu'est-ce que tu vas faire pendant ces Jeux? Je suppose que tu as dû avoir énormément de sollicitations, notamment médiatiques. Ça va être quoi la quinzaine de Jean Galfione?
Oui, je vais travailler pour une radio, je ne sais pas si je peux l'annoncer, mais pour une radio et être consultant pendant 15 jours.
Oui, tu peux le dire,
Oui, mais je crois qu'il se garde...
c'est le secret encore, ouais, d'accord.
Non, c'est pas un secret.
Ton nom n'a pas été dévoilé.
Il va y avoir une annonce officielle.
Voilà, il y a une petite annonce officielle, donc je mange pas le truc, mais c'est pas un grand secret, quoi.
D'accord. Et alors moi, j'ai deux questions. La première, c'est quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un jeune athlète qui va découvrir les Jeux Olympiques, qui va devoir gérer en plus la pression des Jeux à domicile? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui à ce jeune athlète?
Je pense que par expérience, il me semble que tous les athlètes sont dans leur bulle depuis quelque temps. Il faut qu'ils y restent et se protègent. Encore plus aujourd'hui avec nos réseaux sociaux là où c'est un peu compliqué de se protéger, mais ça dure 15 jours, il faut un peu décrocher, je trouve ça important, ou en tout cas s'entourer que de gens où on se sent bien, quoi, des proches. et puis à la fois être capable aussi parfois de mettre des petites soupapes pour évacuer, faire voilà, c'est important aussi. Donc je sais pas, les conseils c'est compliqué, chaque histoire est particulière, mais en effet j'ai l'impression qu'il faut quand même se protéger, de pas perdre de l'énergie où il faut pas en perdre, rester dans sa bulle. Généralement chaque athlète qui est sélectionné a déjà une structure qui fonctionne bien, donc ne pas détruire ce qui marche bien.
Sophie, Jean a évoqué ce refus de la Banque Populaire. Est-ce que tu as l'impression que les anciens champions français dont tu fais partie, toi tu es pas championne olympique mais non. Tu es olympienne, est-ce que vous êtes sollicité et est-ce que on fait appel à vous ou est-ce que vous allez être mis en valeur justement à l'occasion de ces Jeux?
Très honnêtement, c'est je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes, beaucoup d'Olympiens aujourd'hui qui sont assez frustrés, assez déçus justement de ne pas être forcément impliqués d'une façon ou d'une autre. On parlait de Jean avec cette histoire, justement, cette polémique autour du bateau. Il y a une autre championne olympique à Atlanta en 1996, pour ne pas la nommer, Valérie Barlois, qui a été championne olympique en escrime par équipe, deuxième derrière Laura Flessel en individuel. J'en discutais avec elle parce qu'on est très proches. Et Valérie Barlois a été contactée par personne pour porter la flamme olympique. Et elle est en plus présidente de l'Association des Olympiens français. Donc c'est forcément une douleur. C'est forcément une douleur pour des athlètes qui ont fait briller la France, qui font que les Jeux Olympiques sont ce qu'ils sont aujourd'hui en France, et bien de ne pas se sentir du tout finalement impliqué dans cet événement. Oui.
Ouais, c'est un peu dommage. En revanche, une autre championne qui était là en 96, elle risque de recevoir tous les honneurs. Je pense à Marie-Josée Pérec, évidemment, qui elle sera sur le bateau Banque Populaire et qui est pressentie également. Son nom circule pour allumer la vasque olympique. Bah,
ce qui serait magnifique. Ouais, elle le mérite totalement. Évidemment, on peut pas servir tout le monde. C'est difficile pour le COJO, pour le CNOSF, pour de réussir à servir tout le monde. Mais quand on a été champion olympique, on n'en a pas tant que ça, des champions olympiques en France,
non,
quand même.
Non,
on n'en a pas énormément. Donc, alors, ils vont être bien évidemment sollicités par les médias pour devenir consultants, parce qu'il y a énormément de chaînes de radio, de télé, beaucoup d'émissions qui se créent autour des Jeux Olympiques et qui vont avoir besoin, bien évidemment, d'expertise de grands champions. Mais c'est vrai que quand on ne porte pas la flamme olympique, alors qu'il y a 10 000 personnes qui la portent, ça peut être quand même un petit peu frustrant.
Jean, en tant que champion olympique, tu vas bien faire un tour du. Ah ben non, pas le Stade de France, mais un tour avec la flamme pour pas loin d'approcher la vasque, non? Est-ce que ça, pour ça, t'as déjà été approché ou
Non, je vous confirme ce que disait Sophie. Non, moi j'ai pas été approché pour porter la flamme,
non.
Hormis par la Banque Populaire comme un peu l'eau de consolation quand ils ont su que j'allais être sur le bateau. J'ai refusé parce que j'étais un petit peu déçu.
Ouais.
Mais outre ça, non, j'ai pas été sollicité, c'est vrai. J'étais le premier surpris de me dire que on met pas trop les anciens champions en avant, au moins
c'est dingue,
sur une image. Ça aurait
non, mais
pu
je
être
veux
sympa
dire,
aussi pour la communication, pour porter des messages, pour faire des choses. Je vais être sollicité par la Fédération française d'athlétisme, où j'ai des missions pour accompagner le haut niveau et puis pour le développement aussi, un peu de médias pour au moment des Jeux. Mais oui, non, pas tant que ça, la flamme, je la porterai pas probablement.
C'est quand même dingue. Je sais pas combien on a de champions olympiques encore en vie et en état aussi de porter la flamme, parce que ceux qui ont fait les jeux de 48 et compagnie, ils doivent commencer à être un peu plus compliqué pour eux de porter la flamme. Mais Jean, on l'a vu, il est en pleine forme, il aurait et franchement, c'est un nom qui dit à tout le pays quand même. Hein. C'est complètement dingue. Bref, Jean, on te souhaite de bons Jeux olympiques, une bonne préparation. Sois pas trop bon avec la radio, parce que ça sera sans doute une radio concurrente de la nôtre. Mais bon, écoute, on te souhaite en tout cas de bons Jeux Olympiques et à très bientôt sur l'antenne RMC. Merci Jean.
Salut
Galfion.
Jean, à bientôt.
Salut Sophie, au revoir tout le monde, merci.
Merci Jean. Jean Galfion, donc champion olympique à la perche en 1996
et
qui ne portera pas.
Ça fait partie de ces moments. Je sais pas, Christophe.
Je le dis à tous ceux qui nous écoutent là, puisqu'aujourd'hui ce sont les annonceurs qui décident de qui doit porter la flamme olympique, hein, que ce soit Coca, que ce soit Banque Populaire. Franchement, vous avez oublié Jean Galfion. Alors, si vous pouvez faire un truc, franchement, faites-le. C'est une légende du sport français, une légende de l'athlétisme français. L'athlétisme aura sans doute peu de médailles olympiques à Paris en 2024. Alors, faites appel à ceux qui ont fait briller justement nos couleurs dans les années précédentes.
Et Jean, il fait partie de... Il a créé un moment fort. Je ne sais pas si ça te fait ça, Christophe, mais dans les grands moments de sport, on se souvient exactement de l'endroit où on était au moment où on l'a vécu.
Exactement.
Moi, Jean, je me souviens, je peux même le donner la date, hein, et je ne l'ai pas regardé sur Wikipédia, c'était le 2 août 1996. Je sais exactement où j'étais à ce moment-là, le concours avait été incroyable, et Jean avait remporté ce titre olympique, et c'est resté dans, enfin, voilà, on se souvient de toutes les images, c'est resté dans les mémoires, quoi.
Voilà, Jean Galfion, qui était notre invité, 14h21 sur RMC. On va partir dans un endroit que tu connais bien, ma chère Sophie. Une piscine où nous attend Julien Richard. On en a déjà évoqué un petit peu tout à l'heure le meeting de Saint-Germain, Eh bien, Julien nous y attend. Normalement, nous devrions être avec le président de la Fédération française de natation. J'espère qu'il a fait travailler tous les anciens champions olympiques de natation, hein, ou tous les médaillés, ou tous les Olympiens. Hein, t'as été sollicité, toi ?
Par la fédération ?
Oui.
Oh, mais j'ai très bonne relation avec la fédération. Je travaille beaucoup avec eux, mais je ne peux pas travailler avec tout le monde et je travaille surtout avec des nageurs.
Ouais, toi, tu travailles avec des nageurs, toi. Elle bouffe à tous les râteliers. 14h22, nous sommes dans le magazine olympique. On revient dans un instant. En route pour Paris 2024.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
L'Intégral Sport, je suis avec vous, nous sommes avec vous, avec Sophie, jusqu'à 17h, en route pour Paris 2024, durant cette première heure de l'Intégral, avant que les directs ne débarquent. Il y aura deux directs rugby, le top 14 avec Toulon-Montpellier et le tournoi féminin destination avec France-Irlande. Coup d'envoi à 15h pour le top 14 et 15h15 pour le tournoi. On en parlera dans une petite demi-heure avec nos rugby women sur RMC. En attendant, vous êtes dans le magazine olympique en route pour Paris 2024 et on va prendre la route pour la piscine de Saint-Germain-en-Laye où se déroule donc aujourd'hui le Giant Open. C'est tout au long du week-end, Sophie, ou c'est uniquement aujourd'hui ? C'est tout le week-end.
C'est tout le week-end. Avec les finales qui ont lieu donc le samedi et le dimanche après-midi.
Magnifique événement où on va pouvoir voir à l'œuvre quasiment toutes les stars de la natation française. Il n'en manque qu'un, mais quelle star, Léon Marchand, qui lui, pour l'instant, continue de se préparer aux États-Unis en attendant de voir tomber la foudre autour de lui lorsqu'il va débarquer sur le sol français. Julien Richard est à Saint-Germain-en-Laye. Salut Julien.
Salut Julien. Salut Christophe, salut à toutes et à tous.
Et en compagnie, monsieur du président de la Fédération française de natation, Gilles Sézionnal, qui est avec nous. Bonjour Gilles.
Bonjour Gilles.
On est ravis
Bonjour Sani.
On est ravis de vous accueillir. Enfin, c'est plutôt vous qui nous accueillez dans votre Giant Open. C'est une idée à vous, Gilles, d'organiser ce meeting?
Alors, l'idée, elle remonte à quelques années parce qu'on avait inventé à l'époque le Golden Land, qui était devenu le Golden Tour. Et aujourd'hui, c'est devenu le Giant, avec une formule cette année encore un petit peu différente par rapport au JO et qui sert effectivement de revue des troupes par rapport aux futures qualifications qui auront lieu à Chartres au mois de juin.
Et oui, évidemment, parce que le grand moment avant les Jeux Olympiques, Sophie, ce seront ces championnats de France où il faudra arriver au taquet. Certains n'ont pas encore réussi les minima. Et puis, il faut surtout
les premiers. Non, mais surtout, il faut les faire à ce moment-là. C'est-à-dire que vraiment, il n'y avait pas de possibilité de faire les minima, ni ce week-end, ni avant. Il faudra les faire.
Voilà, il n'y a pas de date pour les faire. C'est uniquement à l'occasion
Exactement. Comme ça se fait dans la plupart des pays maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des sélections olympiques, tout simplement.
Ouais. Mais qui se font à un seul moment, et c'est parfois un peu difficile. C'est-à-dire que tu ne peux pas te rater ce jour-là, quoi.
C'est à moi que tu poses la question ou c'est au président ?
Non, c'est à toi et au président, mais je crois qu'on a un petit problème technique, on entend
le réseau. Ah, d'accord. Non, c'est ça, depuis 1988 maintenant. Je peux vous dire, en 1984, on avait 5-6 mois dans l'année pour faire un temps de qualification. Oui, enfin, on le tentait tous les week-ends, à chaque fois, on le ratait de 200e, 300e, 100e, donc ça devenait une obsession. Mais depuis 1988, oui, effectivement, il y a des sélections olympiques et si on est malade le jour des sélections, c'est ce qui m'est arrivé pour les Jeux de Barcelone en 92, et ben on passe à côté et on n'a aucun un moyen de se rattraper. Donc c'est toujours un petit un gros moment de pression, un énorme enjeu puisqu'on joue sur une course ou deux courses, en tout cas sur quelques jours on joue pratiquement une carrière sportive.
Mais c'est ce qui donne aussi de l'importance à l'événement, Gilles, hein. Ces championnats de France, c'est un rendez-vous très attendu par tous les nageurs, par tous les suiveurs, par toute la presse, parce que c'est là que ça va se jouer.
Ah oui, tout à fait. Et puis, effectivement, c'est l'année olympique. Donc, c'est l'année où ces qualifications sont encore plus importantes que d'habitude. Donc, aujourd'hui, après, c'est vrai que c'est sur une seule compétition qui va durer la semaine pratiquement. Après, avec les nageuses et nageurs qu'on a, c'est vrai que suite au championnat du monde au Japon, championnat d'Europe, re-championnat du monde à Doha, bon, on voit déjà on voit effectivement la tendance. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis pour la plupart de ces nageurs qui sont dans une dynamique extraordinaire.
Ouais. Julien, on sait déjà combien de nageurs français sont dans les clous pour aller décrocher leur qualif. Il y en a quand même un paquet maintenant.
Je vais pas te donner le nombre exact, mais effectivement, il y en a quand même pas mal qui ont réalisé les minima. Alors attention, hein, c'est pas des chronos lambda, hein, c'est vraiment des chronos de très haut niveau qui correspondent, en gros, Sophie, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais une entrée en demi-finale, voire finale olympique. Donc
c'est plutôt des demi-finales. Des temps pour des demi-finales par rapport au dernier championnat du monde. Donc c'est quand même très.
C'est-à-dire un top 16 mondial, quoi.
Voilà, c'est un top 16 mondial, Sophie.
Eh ben, ça va être. Vous allez sans doute, vous le savez, messieurs dames de la natation, vous allez être la fédération quasiment la plus attendue lors des Jeux Olympiques. Peut-être avec la fédération de judo qui a toutes ses stars et qui a l'habitude de décrocher médaille sur médaille. Mais l'athlète, on ne les attend pas vraiment, vraiment. Malheureusement, en plus avec les problèmes de Maillard, il y a quand même des chances de médailles qui s'envolent. Non, on compte sur le vélo, le judo, les sports co et la natation.
Et puis la vraie différence aussi, Christophe, c'est que nous, et moi je m'amuse à le dire, on peut avoir 6 ou 8 fois plus de médailles qu'on en a eu à Tokyo. À Tokyo, on n'en a eu qu'une.
Ah oui, oui.
Mais
est-ce que c'est la valeur étalon Tokyo? Vous ne basez pas quand même sur Tokyo, mais plutôt sur Athènes.
Athènes, c'était pas une énorme Olympiade non plus, mais à part leur Manoudou. Moi, je pense que c'est plutôt Londres. C'est Londres, notre référence.
La référence, c'est surtout Londres. Après, aujourd'hui, à la vue des derniers résultats sur les championnats du monde qui se sont passés. Et moi, je tiens à préciser, je suis président de la Fédération des 5 disciplines olympiques et on a effectivement aujourd'hui des résultats dans ces 5 disciplines, hein, puisqu'on voit que même le water polo demi-finale à Doha, et c'est extraordinaire. La natation artistique, avec le changement du règlement, monte sur des podiums européens. La natation au libre est redevenue à Doha la première nation du monde. Et aujourd'hui, natation
à condition qu'on puisse nager dans la Seine, hein, président.
Oui, non, ça c'est un autre. je ne veux pas rentrer dans ce débat. Pour moi, ça me paraît évident qu'un plan B serait le bienvenu, mais c'est pas nous qui décidons.
Franchement, monsieur Sézional, on aurait pu faire les compétitions de natation en eau libre dans la baie des Anges, quand même, ça aurait été
exactement,
bien,
exactement. Hein, à Marseille, avec la voile. À Marseille, il y avait la voile.
On aurait pu le faire à Nice, non? On aurait été pas
Nice, Marseille. Il y a des endroits.
Nager dans la Seine, quelle idée. Enfin, bref. Julien, tu voulais dire un mot?
Oui, est-ce qu'on regarde ce qui s'était passé justement à Tokyo? Et on peut même remonter jusqu'à Rio. Là, avec les résultats récents des derniers championnats du monde, le monde du sport, en tout cas les instances du sport français, vous regardent différemment et vous sentez un intérêt.
Oui, tout à fait. Je pense qu'on nous regarde avec plus de considération. C'est vrai que derrière Léon, derrière Maxime, sur la natation, pour parler des plus connus, hein, c'est vrai qu'il y a un potentiel de médaille. On l'a vu au dernier championnat du monde cet été. C'est vrai que 6 médailles, c'est rien, mais c'est beaucoup. Et c'est vrai que derrière les championnats d'Europe ont été extraordinaires aussi. Donc c'est pas le même niveau, on va dire. Mais aujourd'hui, je pense que la natation course toute seule, elle a un potentiel avec les relais. Derrière, ces locomotives d'un potentiel de médaille effectivement assez important. Donc c'est vrai qu'on nous regarde différemment.
Faites gaffe quand même à pas vous faire piquer Léon Marchand par les Américains. Hein.
Hein non, ça va. Non. Vous savez que c'est plutôt nous qui avons récupéré Bob Omad, son entraîneur légendaire, qui fait partie du staff de l'équipe de France. Et c'est un très grand bonheur pour aussi tous les entraîneurs que d'avoir dans ce staff Jaco Verhaeren, Denis Hogan, Bob Omad. Voilà, je pense que ça permet aussi cette structuration autour de la direction technique avec Julien Issoulier, notre DTN. On a construit quelque chose qui vraiment paye aujourd'hui. Et encore une fois, moi, je suis très heureux aussi que les cinq disciplines, parce que pour moi, ça serait le bonheur absolu si nos cinq disciplines performent. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de la fédération. Donc, c'est pour moi vraiment quelque chose qui aurait du sens.
Mais alors, justement, Gilles, comment on peut expliquer tous ces progrès dans toutes les disciplines? C'est forcément lié à un moment donné à la politique sportive qui a été mise en place il y a un certain nombre d'années maintenant. Quelle a été la décision ou quelles ont été les décisions les plus fortes que vous avez prises pour pouvoir progresser de cette façon en si peu de temps?
Je pense, enfin tu le sais, hein, moi j'étais un petit peu un entraîneur aussi. Normalement on dit qu'il faut 8-10 ans pour faire une génération, donc on a été élu en 2017, on est reparti pas à zéro mais quand même pas loin. Voilà, après c'est beaucoup de travail, c'est de la structuration, c'est de mettre du liant dans les équipes, hein, parce que je pense que c'est l'ambiance qu'on a retrouvée, et moi j'ai la chance d'être avec eux. On voit que tout tourne bien, tout le monde est heureux dans l'équipe de France, dans toutes les disciplines. Donc c'est vrai que je pense que ce travail, après il y a un gros travail de structuration qui a été fait avec le premier programme quand on a été élu, avec les clubs d'excellence, avec les centres de formation. On a tenu tête aussi des fois par rapport à l'agence qui n'avait pas forcément les mêmes visions que moi.
L'ANF,
c'est vrai que ça a été des débats. Aujourd'hui, force est de reconnaître que c'était nous qui étions dans le vrai. Après, on va pas vendre la peau de l'ours, mais voilà, on est quand même sur une dynamique assez extraordinaire.
Gilles, vous avez fixé un nombre de médailles à vos athlètes ou vous refusez de rentrer dans ce jeu-là?
Non, moi, on leur met pas la pression parce qu'ils ont besoin. Vous savez, il y a déjà suffisamment. Hier soir, c'est vrai que Florent le disait, hein, en France, c'est compliqué parce qu'il y a une pression. Voilà, on va voir, comme vous aviez dit tout à l'heure, quand il va revenir Léon, ça va être aussi compliqué parce que c'est beaucoup de gens qui sont en attente. Et donc, c'est vrai que l'air de rien, ça met de la pression. Donc, nous, on essaie de faire bien vivre le groupe. Après, au jeu des pronostics, je pense que pour la fédération, si ça roule bien, comme ça peut tourner, hein, sur un malentendu, comme dirait l'autre, entre 8 et 12 médailles, c'est jouable. Mais voilà, ça peut. Après, si on est à 8 médailles, on sera très heureux. Si on en fait plus, voilà, c'est du bonus. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la natation course peut ramener vraiment un bon nombre de médailles. Avec les relais aussi, hein, on voit que tout le monde est partant. Florent dit, moi je suis prêt à faire. Si vous avez personne sur un malentendu, je veux bien faire le relais 4x100 cadenas en nage libre.
Ça d'ailleurs là,
ça serait très bien. Et d'ailleurs là, il s'est testé déjà à Nice. Il a fait un temps qui était déjà très bien. Là, il va le refaire demain. sur Saint-Germain-en-Laye. Voilà, je pense qu'il y a une dynamique. Hein, voilà, et encore une fois derrière, effectivement, on voit que. À Doha, j'étais à Doha avec eux. Garillon fait une médaille en e-diving. Les plongeurs 3 mètres sont qualifiés. Tous les plongeurs sont qualifiés. La natation au libre a très bien performé. On est redevenu la première nation mondiale à Doha. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment des possibilités. Après, il faut que toutes les planètes soient alignées. Et dans ce cas-là, ça va être énorme. Voilà.
Gilles, une question économique avant de vous relâcher. Ouais. On sait que les Jeux sont un enjeu économique important pour toutes les fédérations, pour le sport français en général. Le CNOSF a décidé de louer à grands frais le parc de la Villette où sera implanté le Club France. Mais on nous dit que plusieurs fédérations nationales seraient enclines à déserter l'endroit en raison des prix prohibitifs qui sont pratiqués. Qu'en est-il de votre côté? Il se murmure que vous auriez dans l'idée de rassembler vos sponsors et tout le petit monde de la natation ailleurs qu'au Club France. Est-ce que vous pouvez me confirmer cette information?
Et si on veut bien voir l'adresse d'ailleurs.
On veut bien avoir un bracelet pour pouvoir rentrer aussi, hein, si c'est possible.
Ben vous serez bien sûr, vous serez les bienvenus.
C'est que Christophe, dès qu'il y a un petit truc à manger,
il y a bien.
Et à voir, pardon.
Bon, on va pas rentrer dans les. des critiques politiciennes. Après, vous savez que bon, moi, je suis pas au CNOSF, hein, parce qu'on a été écarté avec beaucoup de fédérations. Donc, bon, on les laisse vivre. Nous, on vit de notre côté. Moi, ça me gêne pas parce que j'ai beaucoup de travail à la fédération. Donc, voilà. Après, je pense que le lieu de la Villette n'est pas forcément très, on va dire, intéressant par rapport au lieu de pratique de la natation. Donc nous, c'est vrai qu'on travaille, je n'ai pas peur de le dire, on travaille sur un plan à nous, en face de la fédération, avec le maire qui nous prêterait le pavillon. Donc oui, on est en train de voir la réalisation de ce club France Natation.
Club France Natation, d'accord. D'accord.
Et donc vous serez les bienvenus.
Et donc ce sera à Clichy, c'est ça, président?
Ce sera à Clichy, en face de la fédération. On a la chance que notre maire qui nous accueille nous prête le pavillon en face de la fédération. Donc
c'est Rémi Museau.
C'est un peu dommage de ne pas rassembler tout le sport français dans un même lieu quand même, non?
Bah oui, mais bon.
C'est les Jeux en France à Paris?
Oui, c'est vrai. Oui, mais...
Non.
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 D'accord.
Non. Pas vraiment.
Pas vraiment. Bon, Julien, on va monter un studio RMC,
ouais,
aussi,
à
Félix de Nat, hein, parce que si on ne les voit pas, les nageurs.
Et peut-être juste, Christophe, si on a deux secondes, je ne vais pas remettre une pièce dans la machine, mais juste sur la scène et pas de plan B, vous auriez aimé, genre, vous avez demandé ou on vous a pas consulté, ou enfin est-ce que vous êtes confiant pour l'eau dans la Seine? Il y a quand même pas mal de données qui nous disent que ça pourra se faire quand même.
On n'a pas chargé les équipes. Après, vous savez que l'année dernière on était chargé co-organisateur avec World Aquatic, dont je suis membre du bureau.
L'épreuve test l'an dernier, l'été dernier, qui a été annulé.
Le test a été annulé avec tout ce que ça a entraîné derrière comme complications par rapport aux équipes, les délégations qu'il a fallu. Moi, j'ai négocié avec Hussein, le président de World Aquatic, parce qu'il fallait dédommager ces délégations. Aujourd'hui, on nous dit y a un orage comme l'année dernière, on reportera l'épreuve jusqu'à ce que ça soit... Bon, voilà, après, c'est vrai que pour plus de sécurité, nous, on a demandé plusieurs fois à ce qu'il y ait un plan B. Après, on nous dit, non, c'est inenvisageable, mais je pense que c'est plutôt une question politique par rapport à ce qui a été promis de se baigner dans la Seine. Voilà, après, nos nageurs, je ne vais pas être méchant, mais ils ont nagé dans la baie de Rio. Je pense qu'aussi, c'était le risque était aussi important.
Voire plus, Tokyo aussi, c'était...
Tokyo, Rio, c'est vrai que... Voilà, après, étant d'un corps médical, on peut leur faire un petit flash d'antibiotiques avant de nager, peut-être.
Donc vous irez nager avec Emmanuel Macron dans la Seine?
Moi, non. Je suis
courageux, mais pas téméraire.
Courageux, mais pas téméraire. Non, mais si le président de la République me le demande, je mouillerai le maillot avec plaisir.
Avec un scaphandre.
Avec la tête hors de l'eau.
Sans se boucher le nez.
Merci, président. C'était très sympa de vous avoir.
Merci.
Et on
merci
vous souhaite un bon meeting donc à Saint-Germain-en-Laye tout au long du week-end avec Julien. On va le suivre. Les finales, Julien, ce sera un peu plus tard cet après-midi.
17h. 17h et dimanche, ce sera à partir de 16h. Il y a toute l'équipe de France est là, donc comme tu le disais, sauf Léon qui sera la semaine prochaine au final du championnat universitaire américain.
C'est parfait.
RMC, il sera aussi.
Julien ne quitte plus Léon Marchand d'une semelle. Il va l'accompagner donc aux États-Unis et va nous rapporter une belle interview. Et on en parlera la semaine prochaine dans notre magazine olympique. Merci à Gilles Sodional, donc le président de la Fédération française de natation, et à Julien Richard qu'on retrouve un peu plus tard dans l'après-midi. 14h41, vous êtes sur RMC, l'intégrale olympique, hein, notre magazine en route pour Paris 2024 se poursuit dans un instant. On va revenir sur les sujets qui fâchent et notamment le nouvel échec pour Kevin Mayer dans sa tentative de réaliser les minima pour le décathlon olympique. Aurélien Tiercin a suivi la compétition, il va tout nous dire dans un instant, et puis le journal olympique arrive aussi dans une petite minute. En attendant, le rugby, France-Irlande pour le tournoi féminin et Toulon-Montpellier pour le top 14.
RMC Intégral Sport,
Christophe Cessieux.
L'Intégral Sport, 14h44, vous êtes sur RMC. Sophie Camoun m'accompagne encore pendant un petit quart d'heure dans notre magazine olympique. Elle sera là également demain avec plein d'invités. Demain, on accueillera Thibaut Collet, le perchiste français. Et on accueillera également Samir Aïd Saïd, le gymnaste qui était porte-drapeau il y a 3 ans. Je ne sais pas s'il a demandé, comme Clarisse, à porter à nouveau le drapeau. On lui posera la question, mais on a beaucoup moins entendu parler. Et puis Valentin Jamin nous rejoint, lui aussi. Un des hommes importants de ces Jeux Olympiques.
Bien sûr, évidemment, bien plus que les athlètes, ouais, modestement, bien sûr.
Mais non, mais pour RMC, tu suivras quoi comme discipline ?
Escrime, donc premier pourvoyeur de médailles au JO historiquement en France, tir à l'arc, et puis les disciplines un peu plus modernes, breakdance et skateboard.
L'escrime, tu pourrais le mettre avec le tirage de cheveux aussi, parce qu'en ce moment,
c'est. On parle plus d'extra sportif que de performance, malheureusement, en escrime.
Et le skate a lieu où d'ailleurs ?
Alors, c'est avec le break à la Concorde.
D'accord.
Ouais, sport de jeunes, on les a tous mis à la Concorde. Donc, tu seras la bienvenue là-bas.
Je suis pas sûr qu'on ait vraiment le temps d'y aller, Christophe.
Oui, ça, c'est sûr. Allez, on va donc poursuivre notre magazine olympique avec ceux qui déplacent les foules. Ce sont de véritables stars, adulées, notamment. En Chine, et bien ce week-end, ils sont chez eux, au championnat de France de tennis de table. Je veux évidemment parler des frères Lebrun.
Évidemment, Alexis et Félix Lebrun, qui après leur médaille d'argent historique qu'on a suivi sur RMC aux Mondiaux par équipe, eh bien c'était il y a un mois, ils participent au championnat de France. Tu l'as dit, c'est chez eux, c'est à Montpellier. Julien Landry est sur place pour RMC. Salut Julien.
Salut Valentin, salut Christophe.
Et ce samedi, programme très chargé pour les frères Lebrun.
Ouais, ils sont d'ailleurs en train d'être célébrés à l'instant. Tu parlais de cette médaille d'argent pour les garçons, cette médaille de bronze pour les filles. Eh bien, ils sont en train de recevoir de la main de la fédération devant le public montpellierain qui s'est déplacé en nombre des récompenses pour évidemment cet exploit qu'ils avaient réalisé lors des championnats du monde par équipe. Mais oui, tu l'as dit, pour les Lebrun, c'est un moment particulier parce que ils jouent à domicile. Ils étaient à Singapour la semaine dernière. Ils repartent la semaine prochaine. Il faut digérer le décalage horaire, mais il faut surtout aller chercher des titres. Tout d'abord en double où les frères Lebrun viennent de s'imposer il y a de ça une petite demi-heure 3-0. Ils disputeront la finale pour décrocher le premier titre ensemble en double au championnat de France. Félix et Alexis, je vous propose d'ailleurs d'écouter Félix juste à la fin de cette victoire en double.
C'est toujours très plaisant de gagner un match 3-0 pour pouvoir récupérer, enchaîner après sur la fin de la journée. Il faut quand même savoir gérer la récup et gérer aussi tout ce qui se passe, pas non plus perdre trop d'énergie dans la salle à regarder les matchs, même si moi j'adore ça, j'aurais aimé pouvoir regarder tous les matchs, mais non, faut se concentrer dans la compétition et essayer d'avancer tour par tour. Ce soir, ça serait top de pouvoir aller chercher ce titre en double. C'est la première fois qu'on joue ensemble, donc notre objectif c'était d'aller chercher le titre et là on est en finale, il reste plus qu'un match à aller chercher pour ça.
Et la récupération, elle n'est pas trop difficile, hein, parce que tu l'as dit, Valentin, il joue à domicile. Donc Alexis, il a retrouvé son appartement. Félix, lui, il rentre à la maison de papa et maman. Papa et maman qui sont fourrés au moulin sur ce championnat de France ce week-end, parce que c'est l'ode aux Lebrun. Hein. Le papa est organisateur, la maman gère les Lebrun, la sœur Margot s'occupe de tout ce qui est l'événementiel. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de bénévoles et ils font tout, la famille Lebrun. J'ai d'abord pu voir Dominique tout à l'heure, elle m'a dit vous voyez plus mes enfants que moi sur ce week-end, j'arrive même pas à leur parler 30 secondes tellement ils sont pris. D'ailleurs, on a rencontré Stéphane Lebrun hier qui a envie de tout faire pour que cet événement soit réussi pour ses enfants.
Ouais, ils finissent par être habitués. C'est souvent le cas à l'étranger, en Chine, etc. Ils se baladent dans les métros et il y a leurs grandes photos dans les métros. C'est particulier ici, c'est surtout particulier parce que c'est leur ville. Cette année, l'Alliance Team Montpellier, on organise le championnat de France. C'est leur ville, ils sont nés ici. Forcément, c'est particulier pour eux. Ouais.
C'est particulier, ouais. Ils ont envie de faire le maximum. Donc finale ce soir en double pour décrocher le premier titre. Et puis après, ils seront aussi engagés en simple à 19h avant de se retrouver peut-être pour l'événement, probablement demain soir à 17h, la finale ici à Bougnol qui pourrait opposer Félix à Alexis. Et t'as parlé d'engouement, hein. 8000 personnes, Christophe, sont attendues tout le week-end ici à Bougnol. Le stade qui accueille le handball a fait guichet fermé pour les deux jours.
Très bien. Ils ont tous des lunettes dans la famille Lebrun?
Oui, tous des lunettes. La sœur, le papa, la maman et les fils, ils sont tous appareillés de lunettes.
Très bien, eh ben merci Julien, comme ça tu vas pas les perdre, tu pourras les retrouver tout au long du week-end. En tout cas, ils sont très sympas et franchement c'est un vrai bol d'air frais cette fratrie Lebrun, et en plus ils nous régalent parce que sportivement ils sont vraiment très très performants. Les frères Lebrun qui visent une médaille au jeu, en revanche, lui aussi vise une médaille, mais encore faut-il se qualifier. C'est Kevin Mayer qui n'a toujours pas donc son billet dans la poche pour Paris, même si c'est pas très loin de chez lui.
Oui, on s'inquiète pour Kevin Mayer, il a encore échoué. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le double médaillé d'argent olympique du décathlon, il était à San Diego aux États-Unis pour essayer enfin de réaliser les minima olympiques, mais son corps l'a de nouveau lâché, Aurélien Tiersin. C'est devenu malheureusement une très mauvaise habitude. Kevin Mayer grimace, Kevin Mayer réfléchit et il finit par abandonner. C'est arrivé aux Mondiaux de Budapest l'été dernier à cause du tendon d'Achille. Il a renoncé à concourir en Australie en décembre à cause de sa hanche. Et cette fois, à San Diego, il est blessé à la cuisse. Mayer n'a toujours pas réussi les minima pour Paris 2024.
J'ai fait les minima pour les Jeux en 2012, trois semaines avant les Jeux. Peut-être pas attendre jusque-là, mais on a plein d'options encore. Si je veux être en accord avec moi-même aujourd'hui, il faut vraiment que j'arrête de vouloir être pressé de faire les minima et que je me fasse confiance.
Le Montpellierin n'a pas terminé un seul décathlon depuis son titre mondial en juillet 2022. Voir le leader de l'équipe de France galérer à ce point, ça n'inquiète pas encore le président de la fédération, André Giraud.
Inquiet, non, parce qu'on connaît Kevin, on sait que c'est quelqu'un de très sérieux, très attentif aux petits bobos et à son corps. D'après les informations que nous avons, il n'y a rien de grave.
Rien de grave, certes, mais Mayer semble plus fragile que jamais à 32 ans. Et Stéphane Diagana, ancien champion du monde du 400 mètres haies, constate que le chrono tourne.
Mais à un moment, il va devoir se qualifier. C'est à lui de trouver avec son staff le bon moment. Il sera à la fois en forme et sans risque de blessure. S'il y a un problème lié à son hauteur, ça ne va pas se soigner tout de suite. Et ce n'est pas la peine de se remettre à l'idée de refaire un décathlon tout de suite.
Kevin Mayer a jusqu'au 30 juin pour se qualifier, date des championnats de France. D'autres décathlons sont possibles avant, aux États-Unis ou en Europe, notamment à Götzis, en Autriche, les 18 et 19 mai.
Voilà, Kevin Mayer qui n'a pas encore ses minima dans la poche. Sophie, est-ce que tu t'inquiètes pour le décathlonien qui, on le rappelle, n'a pas terminé un décathlon depuis plus de 20 mois maintenant et qui, à chaque fois qu'il fait une tentative, on sent que son corps queen, 32 ans...
C'est son problème, justement, de réussir à ne pas être blessé. Mais c'est vrai que là, plus on se rapproche des JO, plus les occasions se font rares, plus la pression commence à monter de plus en plus. Et c'est jamais très bon, aussi bien mentalement que physiquement. Donc, oui, on peut être inquiet.
Eh bien, on espère qu'il va nous faire mentir et qu'il va se qualifier pour ces Jeux Olympiques. Lui aussi, il attend les Jeux avec impatience et avec ambition, hein, notre basketteur international, Valentin.
Victor Wembanyama, oui, interrogé par Olivier Feulpin, notre correspondant RMC à San Antonio, où évolue Wemby. Et l'intérieur de 21 ans n'imagine pas vraiment la France repartir sans la médaille d'or.
Je verrai comme un échec si j'ai la chance de participer aux JO et que tombe avant la médaille d'or. Parce que je le verrai comme un échec si je pense qu'on aurait pu mieux faire. Et en même temps, je pense que c'est très atteignable si on joue de manière à pas avoir de regrets. Quelque chose d'énorme dont j'ai souvent rêvé. Donc c'est vraiment un événement que je regardais petit et qui me faisait rêver.
Les Bleus de Victor Wembanyama qui connaissent d'ailleurs leurs adversaires en phase de poule de ces JO. L'Allemagne, championne du monde en titre, le Japon et une équipe issue du tournoi de qualification olympique pour l'équipe de France féminine, ce sera le Canada, le Nigeria et l'Australie.
Il vise tout simplement la médaille d'or. Toute autre médaille, Sophie, serait une déception pour Wembanyama. C'est quand même très très ambitieux. On rappelle quand même qu'il y a une petite équipe américaine qui participera au tournoi.
Oui, c'est vrai. Mais je pense que ça fait partie de ces joueurs qui n'imaginent pas leur sport autrement qu'avec avec la gagne, tout simplement. Donc, il ne va pas dire qu'il veut aller là-bas pour une médaille d'argent. Ce serait insensé. Même si, effectivement, je crois que l'objectif, de toute façon, de tout l'athlète qui dispute les Jeux Olympiques, c'est d'aller décrocher une médaille d'or. Enfin, les athlètes qui en sont capables d'aller décrocher une médaille d'or. On ne va pas aux Jeux pour se contenter de faire un peu moins bien.
On ne va pas aux Jeux pour faire deux, quoi.
C'est comme Florent Manodou, vous lui posez la question, il va vous dire qu'il veut faire médaille d'or au jeu. Il sait que ça va pas être facile, mais il sait que même une médaille, il pourrait quelque part s'en contenter. Mais voilà, quand on est un grand champion, on vise l'or, tout simplement.
Et ben voilà, Wemby est un grand champion. Alors, on aura Wemby, mais aura-t-on Kiki ?
C'est la question. Kylian Mbappé, tout le monde se le demande. C'est mal parti. Benzi aussi. Benzi peut-être plus de chance que Kiki. C'est mal parti pour Kylian Mbappé, puisque le capitaine de l'équipe de France, alors peut théoriquement, on le sait, être l'un des trois joueurs de plus de 23 ans à intégrer la liste de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques, mais on ne sait pas où Mbappé aura signé cet été. En revanche, on sait que son probable futur club, le Real Madrid, a annoncé qu'il ne libérera pas ses joueurs pour les Jeux. Alors malgré ça, Mbappé hier a maintenu sa volonté, si possible, d'enchaîner Euro et Jeux Olympiques.
J'ai toujours eu la même ambition. J'ai toujours dit que les JO à Paris, c'était spécial. Ça allait être un événement spécial et que je voulais y être. Et j'ai toujours dit aussi que c'était un événement qui dépendait pas de moi. Maintenant, est-ce que vous voulez savoir si mon ambition elle a changé ? Non. Est-ce que la décision finale elle appartient toujours à la même personne ? Oui. Maintenant, je peux pas me prononcer parce que aujourd'hui on m'a pas dit oui, on m'a pas dit non, on m'a rien dit. Maintenant, comme j'ai dit, je suis arrivé à un moment de ma carrière et de ma vie où je prends beaucoup plus de recul sur ce qui m'arrive et sur les situations auxquelles je suis confronté. Donc, si j'y vais, je vais vivre un rêve éveillé. Si j'y vais pas, j'accepterai et je ferai ce qu'on me dit de faire.
Voilà, Kylian Mbappé, donc, toujours dans le flou, cette équipe de France de foot, on ne sait vraiment pas qui pourra la constituer.
Ouais, y aura-t-il seulement une équipe de foot française au départ des Jeux? Oui, a priori, ça devrait le faire.
Si, c'est bon.
Merci Valentin.
Avec grand plaisir.
Il y avait plein d'autres infos, mais on aura le temps de vous dire tout ça demain, entre 13 et 14 heures, pour une nouvelle édition du Journal Olympique. Merci Valentin, merci à Sophie, qui va aller commenter la natation, d'ailleurs.
Exactement, je fonce à la piscine. J'ai juste le temps d'arriver avant le début des finales à 17h.
Eh ben c'est parfait. Et demain, tu reviens en studio entre 13 et 14h.
Ah, si tu me le demandes, Christophe.
Ah, mais je ne peux plus me passer de toi. Plus les jeux approchent, moi, je peux me passer de toi. Merci, Sophie.